Donc on fait un peu comme hier, hein, c'est-à-dire quelques petits éléments. Alors d'abord, c'est pas tellement, comme tu disais, ma proposition. Moi, j'invente rien, je transmets, c'est-à-dire il y a des choses qui nous ont été dites dans les différentes traditions spirituelles et on peut à chacun ensuite de se les approprier. Je suis content que pour le faire, eh ben, aujourd'hui, on soit sorti un peu de la caverne, puisqu'il fait soleil. C'est un petit clin d'œil par rapport à hier. Par rapport à la retraite, la retraite, le mot même, c'est le retrait. Hein. Ceux qui se vouaient à la retraite, c'était, ou c'est encore aujourd'hui, il en existe, des retraitants, des gens qui vont aller vers la solitude, sont des ermites, sont des gens qui entrent dans des ordres, etc. On les a appelés un temps des anachorètes. Anachorètes, c'est un mot grec qui veut dire solitaire, justement. Donc c'est l'idée de solitude. Mais il y a quatre cas de figure, en réalité, pour la retraite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement cette dédication, cette vocation d'une existence entière à se passer dans le retrait hors du monde. Il y a d'abord, au plus simple, le moment de retraite. C'est-à-dire le moment où on laisse de côté les affaires du monde, et puis on vient dans un lieu qui est un lieu silencieux, un lieu calme, pour méditer, se recueillir, prier, lire, revenir vers soi, chercher cette présence à soi, etc. Donc ça, c'est la forme, je dirais, élémentaire au quotidien de la retraite. Ensuite, il y a la période de retraite, ce dont vous avez témoigné les uns et les autres, ce dont j'ai témoigné aussi, c'est-à-dire que ça va être la consécration d'un moment d'existence qui va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, à la retraite. Comme exemple, on cite souvent cette épreuve véritablement initiatique qui est subie par les aspirants moines, non pas de tous les courants du bouddhisme, mais d'un certain nombre de courants du bouddhisme, qui vont s'isoler pendant une période qui est de 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours, dans la solitude totale. Bon, j'en reparlerai. Donc ça, c'est un deuxième cas de figure, c'est un moment, c'est un moment d'une période de vie. Bon. Il y a un troisième cas de figure, c'est justement la vocation à mener une vie solitaire, une vie retirée, une vie d'ermite, une vie d'anachorète, etc. Et puis, quatrième cas de figure, ça c'est quelque chose qui a été beaucoup développé dans l'hindouisme, et je vais vous lire un petit passage. Les hindous considèrent qu'il y a quatre stades de la vie, et que le dernier stade de la vie en particulier exige d'être consacré à la retraite, c'est-à-dire à un retrait total du monde. Alors, je vous lis ce petit passage, après je vous en ferai un petit commentaire, mais un peu adapté. Je vous conseille ce livre, il est dans la bibliothèque sacrée, c'était un grand spécialiste de l'hindouisme et du bouddhisme qui s'appelait Ananda Kumaraswamy. C'est une introduction très simple et très traditionnelle à l'hindouisme et au bouddhisme, assez loin d'un certain nombre de choses qu'on peut entendre aujourd'hui sur ces deux traditions. Alors il dit, le premier de ces stades, donc, on entre dans toute une logique de vie traditionnelle. Le premier de ces stades est celui de l'état d'étudiant et de discipline. Le second, celui de l'état de mariage et d'activité professionnelle avec ses responsabilités et ses droits. Le troisième, celui de l'état de retraite et de pauvreté relative. Le quatrième, celui du renoncement total, sannyasa. Ainsi, tandis que dans une société profane, l'homme aspire à une vieillesse confortable et économiquement indépendante, dans l'ordre sacramentel, c'est-à-dire dans un ordre traditionnel voué au sacré, il tend, cet homme, à la fin de sa vie, à devenir indépendant du fait économique et indifférent au confort comme à l'inconfort. Nous gardons l'image, dit Kumaraswamy, de l'un de ces hommes magnifiques, naguère chef d'une famille de la plus fabuleuse richesse, il en était alors au troisième stade, à l'âge de 78 ans, vivant seul dans une cabane de bois, faisant cuire lui-même sa nourriture et lavant de ses mains les deux seuls vêtements qu'il possédait. 2 ans passeraient encore, et il abandonnerait alors ce demi-luxe pour devenir un mendiant religieux sans autre possession qu'un bout d'étoffe sur ses reins et l'écuelle où le mendiant reçoit les restes de nourriture que ceux qui n'en sont encore qu'au second stade lui donnent gratuitement. Voilà, donc là vous avez non pas la vocation d'une existence entière, mais quelque chose qui correspond au dernier des stades de la vie, c'est-à-dire, les hindous le disent comme ça, Kumaraswamy le développe ensuite comme ça, qui est un stade de libération vis-à-vis des préoccupations matérielles, de libération aussi vis-à-vis de toutes les préoccupations de ce monde et de toutes les vanités, de toutes les nécessités, de toutes les vanités qui lui sont attachées. C'est-à-dire, on ne cherche plus à être ceci ou à être cela. Et donc, il y a une rupture des liens de ce monde, c'est-à-dire qu'on progressivement, on prend congé, en réalité, de cette existence. Alors, Kumara Swami le dit d'une certaine façon, moi j'aime bien le dire d'une autre, il y aurait quatre temps ici. Le premier temps, c'est le temps de la formation, de l'éducation, on apprend. Donc là, c'est un moment, c'est l'inverse. C'est le premier temps, c'est le temps où on entre dans le monde. Oui. Deuxième temps, c'est le temps de l'expression de soi. C'est-à-dire, on réalise toutes ses possibilités dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans les engagements qu'on peut avoir dans le monde. Donc, expression, dilatation de la personnalité dans ce monde, accomplissement de soi, deviens ce que tu es, blablabla. Troisième temps, le temps de la transmission. C'est-à-dire, on a accompli tout ce qu'on pouvait accomplir pour soi, d'une certaine façon, toutes les potentialités qui étaient dans son... dans sa destinée, dans cette existence, dans son karma, si vous voulez. Et donc là, il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre d'une dépossession, c'est-à-dire qu'on va passer le relais, et donc on est dans la transmission. Bon. Donc déjà, il y a une forme de dépouillement, troisième stade. Et le quatrième stade, après la transmission, c'est la libération. Donc on se libère, ce qu'il décrit là, la libération vis-à-vis des liens du monde, et d'une certaine façon, si je dis d'une manière plus initiatique, l'extinction. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un moment où l'ego se prépare à disparaître complètement. Et, dans une perspective traditionnelle, à réintégrer simplement une réalité plus vaste. On peut dire s'unir au cosmos, s'unir à l'univers, s'unir au monde, et cesser d'avoir une existence séparée. Voilà. Donc, d'une certaine façon, la séparation totale du monde correspond paradoxalement à une fin de la séparation. Alors, ensuite, il y a tout un ensemble d'attitudes classiques qui expriment et par lesquelles s'exprime ce retrait du monde. Je vais en citer un certain nombre. Il y a d'abord, un certain nombre d'entre vous l'ont mentionné, le silence. Le premier acte de retrait du monde, c'est d'arrêter le commerce de la parole avec l'autre. Voilà. On se met en silence. Et vous allez voir que, comme pour le silence, toutes les attitudes ou toutes les démarches qui correspondent à la retraite sont des démarches par lesquelles on ferme des portes. La retraite, c'est fermer des portes. Donc là, vous fermez la bouche. Ensuite, vous vous mettez dans la solitude, c'est-à-dire que vous fermez la porte de la relation. Il y a des lieux symboliques qui expriment cette solitude, ce retrait du monde, cette distance spatiale qui est prise avec le monde. Il y en a deux, notamment dans les histoires traditionnelles. Le premier lieu de retraite privilégié, c'est le désert. Jésus se retire dans le désert. Les premiers moines chrétiens étaient des moines du désert. Hein. Donc le désert, dans sa nudité, dans sa solitude essentielle, dans ce rendez-vous qu'il donne avec l'essentiel, c'est un lieu par excellence de la retraite spirituelle. On a dit une phrase, je ne sais plus d'où elle vient, je pense qu'elle vient des moines chrétiens d'Occident, on a dit que la forêt était le désert de l'Occident. C'est-à-dire que vous allez avoir une tradition érémitique, c'est-à-dire une tradition de vie en ermite, en Occident, qui va se faire dans l'équivalent symbolique du désert, qu'est la forêt. Et la forêt, c'est-à-dire l'immersion dans la nature, dans une nature qui est une nature où vous avez rompu avec les agitations humaines, les affaires humaines, la participation aux choses du monde, la participation... aussi à ce que j'ai appelé tout à l'heure un certain nombre d'illusions mondaines, une certaine vanité, etc. C'est-à-dire vouloir être quelqu'un au regard d'autrui. Exister pour le regard d'autrui. Parce qu'il y a cet enjeu dans la solitude, dans le retrait, vous n'existez plus pour personne. Donc qu'est-ce qui se joue là-dedans ? Et donc c'est un rendez-vous avec, c'est une volonté de rupture avec beaucoup d'illusions, beaucoup de vanité, et aussi avec ce que représente le monde pour celui qui fait retraite, c'est le risque ou la menace d'une dispersion de soi. C'est-à-dire que celui qui choisit de faire retraite, fait retraite parce qu'il appréhende le monde comme quelque chose qui le disperse, qui le projette beaucoup trop à l'extérieur de lui-même, et il veut échapper à cette dispersion pour entrer dans une attitude qui est une attitude de consécration ou d'unification de soi, de consécration à son effort spirituel. Et il considère que le monde n'est pas propice pour cet effort de consécration de soi. Mais à ce sujet, il y a deux grandes écoles. C'est-à-dire qu'il y a l'école spirituelle de ceux qui considèrent le monde comme une menace et qui, à partir de là, font faire retraite. Et il y a l'école, une autre école spirituelle, qui considère que la menace est bénéfique. C'est-à-dire qu'il considère que la menace de dispersion du monde est une confrontation nécessaire et, d'une certaine façon, la meilleure opportunité de garder un état de consécration intérieure. Donc là, il y a un choix spirituel à faire, soit se retirer du monde, soit entrer dans le monde. De ce point de vue-là, je voudrais vous lire un petit texte d'un quelqu'un qui a beaucoup étudié le soufisme, donc qui était un spécialiste d'Abdelkader, qui était un grand soufi algérien du 19e siècle. Il dit la chose suivante, et lui, il va dire, attention, ça peut être aussi une tentation de se retirer du monde. Ça peut être la solution de facilité pour vouloir se consacrer que d'essayer d'éliminer la menace de dispersion que représente le monde extérieur. Donc voilà ce qu'il va dire. Il va dire, comme il n'est pas de lieu où Dieu ne soit, il n'est pas d'état où la sainteté n'ait sa place. Anachorète ou girovague, princes qui se retirent au désert, marchands qui, leur boutique abandonnée, s'en vont mendier le long des routes. Les vocations ne manquent pas en islam qui prennent leur élan dans le refus et s'accomplissent dans l'exil et la solitude. Mais la perfection n'est pas dans ces ruptures. Les meilleurs restent là où ils sont, car, il cite le Coran, il est avec vous, Dieu est avec vous, où que vous soyez. Alors, réalisant cela, qu'ils soient califes ou porteurs d'eau, ils ne fuient pas leurs conditions. C'est elle qui parfois les quitte. Leur retraite est la foule. Leur désert, la place publique. La conformité est leur ascèse, l'ordinaire, leur miracle. La petite guerre sainte contre l'ennemi du dehors ne les détourne pas de la grande contre l'infidèle que chacun porte en soi. Leur vie conjugue, sans regret sinon sans effort, les affaires du siècle et celles de l'éternité. Ils sont pareils à cet arbre excellent que mentionne le Coran, dont la racine est ferme et la ramure dans le ciel. Donc vous avez ce questionnement qui traverse les différentes traditions spirituelles, pas seulement l'islam. Ce questionnement, c'est comment se consacrer? Comment s'unifier? Quelles sont les conditions les plus propices? Est-ce que ça va être des conditions de retrait du monde? Ou est-ce que ça va être des conditions de confrontation avec le monde? Voilà. Et donc c'est à chacun de se poser cette question, je dirais, au quotidien et au long cours de son existence. Il peut y avoir quelque chose qui varie selon les périodes. Alors, ensuite, apparaît là la question de la finalité de la retraite. Alors là, il y a trois mots, je pense, qui sont importants. Le premier terme, c'est consécration, je l'ai cité. C'est-à-dire que vous faites retraite parce que vous éprouvez le besoin, à un moment donné de votre vie, de vous consacrer à vous-même, à faire retour sur vous-même, à vous ressourcer, à vous retrouver, à vous interroger. Donc, vous vous dites qu'il est nécessaire, pendant un temps, de suspendre votre participation au monde pour trouver les conditions les plus propices à cette consécration. Bon. Cette consécration, deuxième mot, elle est donc l'opportunité d'une confrontation. Une confrontation à soi. Et là, il y a un exercice qui est vraiment périlleux. Parce que la confrontation à soi, ça ne s'improvise pas. C'est quand vous vous retrouvez tout seul avec vous-même, il y a quelque chose qui peut être très à double tranchant. C'est-à-dire que ça peut être, tout d'un coup, l'invasion psychique, c'est-à-dire l'invasion de votre mental par tout ce qui habituellement est un petit peu refoulé, un petit peu tenu à distance parce que votre esprit est occupé à faire ceci, à faire cela, c'est-à-dire à régler les affaires courantes de votre participation au monde. Donc il y a quelque chose qui est potentiellement redoutable dans la retraite. C'est la raison pour laquelle, dans les différentes traditions spirituelles, on n'envoie pas quelqu'un en retraite en le laissant dans le vide. En général, les retraites sont, je vais employer un terme qui est un peu trivial, mais bien remplies. Elles sont bien remplies, c'est-à-dire qu'elles sont occupées par des rituels, elles sont occupées par des travaux, Quand, par exemple, vous prenez l'exemple de la vie monacale, qui est l'existence retirée par excellence, les moines sont occupés toute la journée. C'est-à-dire qu'il y a une régularité d'offices qui sont nombreux, en général, il y a au moins 7 offices dans la journée. Il y a des travaux qui sont des travaux de participation à la vie collective de la communauté, etc. Tout cela vise à donner à la consécration de soi un certain nombre de supports qui vont éviter à la confrontation avec soi de tomber dans un espèce de vide vertigineux de l'inoccupation, voyez, où la confrontation avec soi va être risquerait d'être beaucoup trop vide et beaucoup trop vertigineuse. Voilà.
Et violente.
Hein. Voilà. Donc, par exemple, c'est vrai que souvent, par exemple, quand vous parlez de vipassana, il y a quelque chose qui a vraiment une force, qui peut être en même temps l'opportunité d'une très, très grande purification, je dirais, parce que toutes ces pratiques ont une vocation aussi de purification. Mais en général, les retraites il s'agit. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Pas nécessairement progressif, mais voilà, c'est comme le reste dans la vie spirituelle, il y a des choses qui ne s'improvisent pas, parce que c'est délicat de se retrouver confronté à soi-même. Et enfin, dernier élément de la retraite qui est important, il y a donc confrontation, consécration, confrontation, et je dirais gestation. Gestation, c'est-à-dire que c'est toujours un moment de jachère. On en a parlé il y a quelque temps au Sésame, c'est toujours un moment de repos. Et dans le repos, spirituellement, symboliquement, c'est le temps de la transformation intérieure, dont le mental n'est pas nécessairement conscient, c'est-à-dire on n'est pas nécessairement conscient de ce qui se passe en nous pendant la retraite, mais il y a ce pari qu'il y aura le bénéfice d'une nouvelle naissance, de quelque chose qui va être trouvé dans la retraite, qui va être puisé au fond de soi, qui était insoupçonné, et qui va, grâce à la retraite, se révéler. Donc le moment de retrait, c'est le moment, je dirais, de l'enfantement dans le calme, la solitude et le silence de quelque chose de nouveau en soi, de quelque chose qui demande en soi à émerger. Donc on ne fait pas retraite non plus à n'importe quel moment, on fait retraite quand, d'une manière ou d'une autre, on a cette intuition que quelque chose demande en soi à émerger. Mmh. Voilà, on ne sait pas quoi. On ne le saura peut-être pas pendant la retraite, hein, parce que c'est vraiment le travail de l'intériorité souterraine, la plus profonde, mais c'est ça qui est recherché. Et voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'on peut dire beaucoup d'autres choses, mais c'est pas la peine. Si, peut-être une dernière chose qui est liée à ce que je disais du caractère vertigineux que la retraite peut avoir. Quand on va faire une retraite, c'est intéressant quand même de se demander ce qu'on va y faire. C'est-à-dire de ne pas, comme ça, basculer uniquement dans le vide, emmener au moins un bouquin. Ou, vous voyez, par exemple, tu disais tu as fait Compostelle, c'est-à-dire prévoyez de marcher. Prévoyez de lire, prévoyez peut-être de réciter quelque chose, prévoyez de faire un travail, prévoyez de... Voilà, ou demander aux gens qui vous accueillent si vous pouvez participer à quelque chose, etc. Parce que voilà, c'est là aussi un équilibre à trouver entre le vide et le plein.
J'ai une question sur le caractère régulier des retraites. Est-ce que dans toutes les traditions, d'abord, c'est une... prescription, et est-ce que la régularité est indispensable?
Le principe de la vie traditionnelle, c'est entrer-sortir, c'est-à-dire le simple fait que dans toutes les traditions il y ait des rituels quotidiens, en fait l'acte essentiel de la retraite, il est là, c'est-à-dire que le rituel quotidien, c'est je m'arrête, j'arrête ma participation au monde et je vais me consacrer à ma relation avec Dieu, avec une forme de transcendance, quelle qu'elle soit. Et en réalité, c'est la respiration même de la vie traditionnelle. Vous voyez, c'est inspire, Je rentre dans le rituel, je me retire du monde, expire. Je me réinvestis dans le monde, je me réengage dans le monde, je reprends le cours de mes affaires, etc. Et donc, il y a cet idéal de quelque chose qui est très fluide entre le dedans et le dehors. Donc, ça n'a pas nécessairement le caractère spectaculaire du pendant 3 mois, je vais faire un truc extrêmement intense, etc. Ça peut être ça à certaines périodes de vie. Mais je dirais, au plus simple, au plus commun, eh bien, c'est cette respiration entre chaque jour des temps dédiés à la vie spirituelle et ensuite le réengagement dans le monde. Je m'occupais de mes enfants, j'ai mon boulot, j'ai ceci, j'ai mon jardin, nanana, etc. Voilà. Avec cette idée, évidemment qu'il y a un rapport entre l'inspire et l'expire, c'est-à-dire que l'inspire inspire. C'est-à-dire l'inspire inspire l'expire, c'est-à-dire que ce que je vais aller puiser dedans va me permettre de m'engager d'une certaine manière et de donner un surcroît de sens, de valeur, de force à ce que je peux faire à l'extérieur. Et c'est en ce sens-là que la vie spirituelle diffuse. Ce n'est pas deux temps qui sont destinés à être séparés, mais c'est aller prendre l'inspiration, l'énergie, la lumière dedans pour l'amener au dehors, en fait. Et là, il y a derrière, en réalité, une vision de l'être humain et de la vie humaine. C'est-à-dire que la vie humaine, dans les traditions spirituelles, sa vocation fondamentale, c'est d'amener la lumière. Voilà. Et donc, pour amener la lumière, ou pour amener la vie, vous pouvez le dire de plusieurs manières, il faut régulièrement aller chercher de l'eau dans le puits. Voilà. Donc il faut retourner puiser régulièrement. Puiser, donner. C'est pour ça que Martin Buber dit « commencer par soi, mais ne pas se prendre pour but ». Commencer par soi, c'est-à-dire commencer par épuiser, donner. C'est pour ça que dans plusieurs traditions spirituelles, la vie spirituelle était définie comme un service. Mais pour rendre service au monde, pour servir le monde, pour servir la vie, pour servir la création, il faut avoir quelque chose à donner.